Bienvenue sur Principe Actif, 102.4 à Évreux et 95.9 pour Conches et Breteuil. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, la dernière de l'année, de vous à nous, on vous dit presque tout, on va vous parler du jouet. Le jouet qui a pour fonction première d'être ludique, récréatif ou affectif. Je pense au fameux nounours en plus ou l'indispensable doudou. Le jouet est associé aux enfants et c'est le cadeau le plus offert à Noël. Il semble inné. Les tout-petits, dès qu'ils en sont capables, se mettent spontanément à s'amuser. Et pour jouer, il suffit d'un peu d'imagination et d'un sens aigu de l'observation, car les enfants aiment imiter les grands. Les grands qui retombent en enfance devant un train électrique, une poupée, un jeu de construction comme les Lego, les jeux de société. Toute l'équipe, Florence, MC, Michel, Marie-Claude, Michel et moi-même Sylvie, va vous proposer tout le long de l'émission un historique, des chroniques, débats, reportages, minutes culturelles, billets et un petit quiz pour finir. Et je n'oublie pas une interview de notre invitée Maëlane qui travaille dans une micro-crèche. Le tout dans une ambiance bon enfant. Je vous souhaite une bonne écoute et c'est parti pour une heure de direct.
Allez, posez votre fourchette et écoutez-nous.
Eh bien, je vous retrouve déjà pour un historique condensé. J'ai 4 minutes, hein. Donc voilà, c'est parti. L'origine des jeux remonte au début de la civilisation humaine. La poupée est sans doute l'un des premiers objets à avoir eu cette fonction. D'après les fouilles archéologiques, les premières remonteraient à l'ère paléolithique. Faite d'argile et de terre cuite, la plus ancienne a été retrouvée en 2017 en Sibérie. Elle aurait 4500 ans. On a découvert aussi dans les tombeaux égyptiens des poupées vieilles de 4000 ans. Bon, c'est un jouet qui traverse l'histoire. Elle est faite de matériaux trouvés dans la nature, de chiffons, de bois, etc. On arrive au XVIe siècle où les poupées mannequins surnommées les Parisiennes apparaissent en France. Elles servent d'ambassadrices de mode car Paris se positionne déjà comme la capitale de l'élégance. Elles sont offertes aux enfants royaux ou issus de riches familles nobles, car posséder un jouet pendant des siècles est l'apanage des enfants des classes privilégiées. Au fil du temps, les jouets entrent dans les familles. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle du jouet, où les parents commencent à offrir des cadeaux pour les étrennes et les anniversaires. Sauf pour les familles pauvres, hélas. D'ailleurs, ça me fait penser au roman de Victor Hugo, Les Misérables, où Jean Valjean va offrir à Cosette une merveilleuse poupée de porcelaine. À cette époque, la fabrication devient industrielle. On invente enfin la reproduction d'un bébé. C'est les baigneurs en celluloïdes, vite remplacés par la marque Petit Colin, très connue, des poupons faits de matériaux sans danger pour l'enfant, contrairement au premier qui était inflammable. Au fil du temps, les familles ont un peu plus de moyens. La fabrication évolue, s'adapte à de nouveaux usages, des nouvelles technologies apparaissent, le plastique entre dans leur composition. La poupée moderne arrive plus proche de la réalité. Dans les années 50, la poupée française se fait une réputation internationale. Mais c'est l'arrivée aussi d'une concurrente américaine. Voilà, la fameuse Barbie avec un succès immédiat encore au sommet des ventes en 2024, quand même. Bon, pour finir, après les Bella, Rénal, GG des années 60, on trouve encore actuellement des grandes marques comme la poupée Corolle à la douce odeur de vanille pour le plaisir des parents et des enfants. Mais je vais proposer une question à toute l'équipe quand même. Alors, quel est le jouet qui est aussi le plus ancien au monde ?
C'est pas le hochet ?
Oui, Marie-Claude. Alors, le hochet offert au bébé dès l'Antiquité, il est réputé pour favoriser son développement dès les premiers mois de sa vie. Et avec son petit grelot, c'est une vraie distraction sonore et visuelle pour bébé qui, dès un mois, s'amuse de tout. C'est mignon, non? Et nous passons maintenant au reportage de Florence avec Madame Fallet, responsable du magasin Jacadi à Évreux.
Bonjour, je me trouve en compagnie de Madame Fallet. Donc on est rue Chartrenne dans une petite boutique qui s'appelle Jacadi. Alors bonjour Madame Fallet.
Bonjour Madame.
Alors vous pouvez me parler de votre activité s'il vous plaît?
Oui, alors nous faisons partie des spécialistes du jouet, voilà, avec des marques communes à certains et beaucoup de marques que nous avons en exclusivité.
Et alors depuis quand vous exercez-vous cette profession de vendeuse de jouets?
Alors moi depuis 20 ans, mais nous avons 3 enseignes sur la région, dont une qui a plus de 75 ans, qui se trouve aux Andelys.
Et c'est une affaire familiale si je comprends bien, parce que je crois que vous avez entendu dire que votre maman aussi vendait des jouets.
Tout à fait, c'est une affaire familiale, voilà, ma maman y est restée une vingtaine d'années également.
Et donc quelle était votre motivation pour venir justement dans ce monde du jouet?
La motivation, c'était au départ en retraite de ma maman et de voir des activités, en fin de compte, qui sont demandées et qui existent depuis plusieurs années, disparaître, et alors que la clientèle est là et qu'il n'y avait qu'à développer. Donc, j'ai arrêté mon précédent métier pour reprendre l'activité et développer l'activité.
Donc là, nous sommes en pleine période de Noël, donc c'est pour ça que je suis venue vous voir. Et pouvez-vous me dire comment se porte le commerce du jouet à l'heure actuelle, le jouet que vous distribuez? Parce qu'en fait, on n'est pas dans une grande distribution, là, on est dans une petite boutique de ville, voilà. Donc, pouvez-vous m'en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. Donc, on est quand même dans un climat qui est assez tendu. Néanmoins, il y a quand même un retour vers les jouets en bois, les jouets traditionnels, et c'est valable un peu dans tous les corps de métier. C'est très recherché, les produits un peu d'exception, on va dire. Voilà.
Alors, bien sûr, la période de Noël, vous la préparez quand, en fait? En quel moment de l'année? Est-ce que vous allez voir des salons? Est-ce que vous allez, comment vous sélectionnez vos jouets, tout ça? Comment vous faites pour, justement, remplir votre boutique, qui est bien achalandée, d'ailleurs?
Merci. Donc, en début d'année, nous faisons le Salon mondial du jouet, qui se trouve en Allemagne, à Nuremberg. Et il y a tout type de jouets, pour la grande distribution ou pour les spécialistes comme nous. Et c'est là que les choix sont faits, en début d'année. Voilà. Et nous préparons Noël à partir du mois d'août environ, pour recevoir les livraisons et ne pas manquer de stock. Étant donné qu'aucun jouet n'est fabriqué en période de Noël, tout se joue en début d'année, même pour les plus gros.
L'autre fois, nous avons préparé un petit peu cette interview. Vous me parliez justement de certaines marques de jouets que vous distribuez et qui ont vécu des difficultés et qui maintenant se retournent vers les grandes distributions pour vendre leurs jouets en vous laissant un petit peu sur le côté. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire?
C'est valable que pour quelques marques, hein. Beaucoup ont essayé un peu cette technique il y a une dizaine d'années quand Internet est apparu, et finalement on fait du rétropédalage en se rendant compte au niveau des statistiques que finalement tout ce qui était les gros réseaux de distribution et Internet, c'était loin d'être magique. Ils font quand même une grosse proportion de ventes dans les boutiques spécialisées pour certaines marques entre guillemets haut de gamme comme Moulin Rôti ou ces marques-là, voilà.
Alors le peu de temps que j'ai passé dans votre boutique ce matin, j'ai vu des grands-parents. Il y a beaucoup de grands-parents qui viennent vous voir?
Tout à fait, beaucoup de grands-parents, mais aussi des jeunes parents qui viennent pour le conseil, les produits un peu d'exception que nous avons dans notre boutique.
Alors, vous avez l'impression de jouer à la poupée un petit peu tous les jours?
Oui et non, c'est pas les poupées qu'on vend le plus, mais ceci étant, il faut quand même être assez au courant des produits, des fonctions de chaque produit, etc. C'est quand même un métier.
Oui, voilà, c'est un métier, effectivement, comme l'on dit. Hein. Et chez vous, on trouve beaucoup de jouets traditionnels. Vous n'avez pas de jouets à la mode, en fait, comme on a parlé tout à l'heure.
Si, quand même, parce qu'il y a des tendances, en fin de compte. Il y a deux domaines dans le jouet. Vous avez le jouet un peu de grande distribution, peut-être pour les plus grands, mais pour les petits, il y a quand même des tendances. On est quand même aujourd'hui dans le jouet de manipulation, de réflexion, enfin, les comportements ont changé. On recherche quand même plus le développement de l'enfant que le jouet de publicité télé qui reste éphémère dans le temps.
Oui, donc en fait, si on a un besoin particulier pour un enfant, on a des enfants qui sont à besoin particulier, comme on dit, donc vous êtes capable de nous donner, de donner aux parents, aux grands-parents, donc des conseils dans le choix du jouet.
Tout à fait, et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre les professionnels et la grande distribution. On vient aussi pour chercher le conseil et on est formé par nos marques qui elles-mêmes travaillent en partenariat aussi avec des professionnels de la petite enfance, corps médical, etc.
Parce qu'il est vrai que chez vous, si on a un adolescent, par exemple, on va pas forcément trouver quelque chose pour un adolescent en jouet.
Ça dépend, si, si. Il y a quand même, alors après, c'est sûr qu'on fait pas les grandes, grandes marques comme Lego ou autres, mais il y a toujours des choses, enfin, des coffrets scientifiques. Si, si, il y a quand même une sélection qui est faite pour les plus grands.
Pour les plus grands. Jusqu'à quel âge, à peu près, votre magasin?
Jusqu'à 14, 15 ans.
Mais sur Évreux, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça que vous êtes installé sur Évreux.
Ça fait quand même 7 ans et bientôt 3 ans rue Chartraine et sur des rues un peu plus en périphérie avant pour tester un peu le marché local.
Là, nous avons plein de choses. Alors, pour les filles, c'est dans le violet, le rose, avec donc des paillettes, top modèle. Enfin, vraiment, pour les petites filles, il y a plein de choses. Et pour les garçons aussi. Alors, les garçons, c'est par ici. Il y a peut-être des petites voitures. Mais il y a aussi un très bon rayon, on va dire, de jeux éducatifs, hein, effectivement. Mais alors, malheureusement, très peu de jouets sont fabriqués en France.
Très peu de jouets sont fabriqués en France pour le moment, parce qu'il y a quand même une volonté de ramener la production depuis le Covid et les explosions des coûts de transport par voie maritime. Donc il y a quand même une volonté à ramener au moins en Europe une grosse partie de la production d'ici 2 à 3 ans.
Oui. Vous n'avez pas de fabricant de jouets local?
Local, non, non. Et le peu d'entreprises, voilà, qui fabriquent encore leurs jouets en France, préfèrent faire du volume sur, par exemple, Amazon, que de privilégier les boutiques. C'est un peu malheureux, mais je pense que dans quelques temps, ils reviendront sur leur position. Mais aujourd'hui, c'est la réalité, c'est comme ça.
Voilà. Eh bien, écoutez, Madame Fallet, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes, parce que je crois que voilà, vous êtes très occupée en cette période de Noël. Et on vous souhaite, bien écoutez, une belle saison de Noël. Et à bientôt. Joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous et merci beaucoup.
Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie, un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip
quand il roulait, paf quand il tournait, brrr quand il marchait.
Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais. Et la première fois, quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zip
quand il roulait, paf quand il tournait, brrr quand il marchait.
Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais. Marcha comme un militaire, tout à coup il s'assit. Il passa sous une chaise et puis soudain disparut sous le lit. J'ai pleuré tandis que mon père, lui, riait aux éclats. Car en me retournant, je vis le jouet qui était derrière moi et il faisait zip
quand il roulait, paf quand il tournait, brrr quand il marchait.
Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais. Les années ont passé trop vite et justement hier, dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. Il était vieux et tout rouillé, mais quand on la posait par terre, il faisait toujours zip
quand il roulait, paf quand il tournait, brrr quand il marchait.
Je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne saurais jamais. Je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne saurais jamais.
Nous avons écouté le jouet extraordinaire de Clo-Clo.
Connais-tu ces choses informes?
Oui, ce sont les jouets d'Andy.
Bien reçu, autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix.
Je suis tellement content que tu ne sois pas un dinosaure.
Vraiment.
Et voilà, et bien écoutez maintenant, c'est le tour de Michel et Marie-Claude pour l'interview avec Maëlan qui, je le rappelle, travaille dans une micro-crèche.
Alors, nous recevons donc Maëlane, qui va se présenter, qui va nous parler un peu de son métier. Et nous allons parler aussi, surtout, des jouets, puisque c'est cette semaine, enfin ce mois-ci, notre sujet de travail et d'émission. Michel aussi est avec moi et on va interroger notre invité. Bonjour Maëlane.
Bonjour Marie-Claude. Je m'appelle Maëlane, je suis auxiliaire de puériculture en crèche et adjointe de direction.
Bon, donc ce qui fait que tu es en contact donc avec des petits?
Oui, tout à fait, de 3 mois à 3 ans.
Oui, jusqu'à la maternelle, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Donc il faut les occuper, ces petits. Et donc, quels sont les types de jouets ou de jeux qu'ils ont?
On a beaucoup de jeux libres. C'est des jeux comme de la dinette, des bébés avec des baignoires, des tables allongées. C'est très important le jeu libre pour le développement de l'imaginaire, de l'imagination. Et ensuite, on a effectivement un petit peu tout, beaucoup de jeux en bois. On essaye, c'est plus éthique. Voilà, il faut que ce soit adapté à tous les âges. Donc effectivement, on a du hocher au puzzle pour les plus grands, en passant par les livres.
Oui, donc il y a quand même des jouets qui sont un peu par profil d'enfant, ou comment est-ce que vous les choisissez?
Non, pas par profil, plutôt par âge, et puis en fonction de ce qu'on veut leur apporter. Voilà, le jeu libre, c'est vraiment pour qu'ils puissent jouer en autonomie, en section. Ensuite, on fait des activités dirigées, effectivement, donc plutôt avec des puzzles, avec les histoires, puisqu'ils ont besoin de nous à ce moment-là pour qu'on leur explique comment faire et qu'on leur indique les consignes, entre guillemets, si on peut dire consignes à cet âge-là.
Vous êtes combien d'auxiliaires par enfant dans votre établissement?
Alors, auxiliaire, je suis la seule de ma structure. Professionnels, donc on a différents types de professionnels. Il y a des éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et CAP petite enfance. On compte une pro pour 4 enfants dans ma structure.
Et tu reçois combien d'enfants?
À la journée, ils peuvent monter jusqu'à 14. C'est une micro-crèche.
Et donc, quels sont les choix, les jeux? Est-ce que c'est vous qui les choisissez? Est-ce qu'on vous les impose? Comment est-ce que ça se passe?
On fait avec le matériel qu'on a à disposition, déjà. Ensuite, c'est nous qui choisissons en fonction du groupe d'enfants qu'on a, du groupe d'âge. Voilà, on voit en fonction de l'énergie aussi. S'ils sont plutôt posés, on va sortir des activités posées. S'ils ont plutôt besoin de courir, enfin, on va sortir plutôt des activités motrices, des cerceaux, des coques, des ballons.
Et quand ils sont posés, qu'est-ce qu'on leur offre alors comme jouet?
Puzzle. Pour les plus grands, on a plein de petits jeux comme le lynx, comme plutôt des choses par rapport aux couleurs, aux nombres. On a créé une petite classe aussi dans la crèche où je travaille, où là on travaille effectivement plus voilà, sur les couleurs, les chiffres, l'alphabet. Une classe où on peut se poser, être assis et travailler effectivement de façon plus posée.
Et là, c'est pas une question pour vous déstabiliser, mais est-ce que dans les enfants, dans les groupes d'enfants que vous avez, est-ce que vous avez des petites préférences? Je me doute que vous pouvez pas les faire voir, mais est-ce qu'au fond de vous-même, vous êtes plus encline à aller vers certains enfants? Oui, c'était le sens de ma question.
Alors moi, personnellement, oui, effectivement, j'ai un attrait pour les bébés. Peut-être de par ma formation, puisque je suis plus dans le soin et... voilà, que mes collègues qui sont peut-être plus dans l'éducatif.
Et le choix de ce métier vous est venu jeune ou ça a été lors de vos études?
Oui, ça m'est venu très jeune, effectivement, juste après mes années lycée. Tout de suite, je savais que je voulais travailler auprès des enfants et j'ai choisi d'être auxiliaire de puériculture pour pouvoir avoir différentes voies, finalement, puisqu'en tant qu'auxiliaire, on peut travailler en crèche ou à l'hôpital auprès d'enfants handicapés.
Et le grand public, en principe, n'y pense pas. Mais est-ce que c'est un métier physique?
Oui, effectivement, c'est un métier physique. On passe notre journée assise au sol, à porter des enfants, donc d'un certain poids, hein, puisque certains, à 3 ans, pèsent bien 15 kilos. Il y a énormément de bruit aussi, donc c'est pas forcément du physique, mais c'est
fatigant.
C'est fatigant, en fait. Effectivement.
Oui, mais quand je dis physique, c'est que le soir, et puis avec les années, ça se ressent peut-être.
Oui, effectivement. Ça fait 10 ans que je travaille en crèche, j'ai déjà, moi, des difficultés pour porter les enfants, souvent mal au dos, aux genoux.
Est-ce qu'il y a des effets ou des répercussions sur les enfants, donc dans leur évolution, par rapport aux jouets qu'ils vont manipuler ou qu'ils vont découvrir éventuellement?
Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on met, différentes choses en place. C'est pour ça qu'on ne sort pas toujours les mêmes jouets, puisqu'on adapte en fonction de leur motricité, de leurs envies. On travaille donc la motricité fine. Ce qu'on appelle la motricité fine, c'est la pince au niveau de la main. C'est tout petit qu'ils apprennent à se servir du pouce et de l'index pour attraper des choses. Donc on fait pas mal de petites activités effectivement dans ce sens-là. Il y a des activités qui développent la motricité globale, donc le quatre pattes, la marche. Pour les tout-petits, le fait de s'asseoir, de se retourner.
Tout à l'heure, je posais une question de choix des jouets. Est-ce que vous êtes amené à en acheter ou en demande d'achat? Comment ça se passe de renouvellement?
On demande régulièrement à ce que notre stock de jouets soit renouvelé, déjà parce que les jouets sont cassés, forcément, puisque quand à la journée, il y a une quinzaine d'enfants qui les manipulent, les jouets ne durent pas forcément très longtemps pour certains. Et puis oui, on a toujours envie d'avoir de nouvelles choses et de nouvelles idées en fonction des nouveaux groupes d'enfants qu'on a aussi, qu'on accompagne.
Et est-ce qu'il y a une évolution un peu dans les jouets qui sont les plus demandés ou une défection peut-être? Comment ça se passe?
Alors les jouets les plus demandés, je dirais les voitures et les poupées.
C'est vrai encore.
Dans vos groupes d'enfants, est-ce qu'il y a des affinités entre eux, à deux ou trois? Est-ce qu'ils forment déjà des petits groupes?
Oui, complètement, en fonction de l'âge, surtout. Par rapport à l'âge, ils se regroupent, ils vont avoir plus de jeux ensemble, ils vont courir ensemble, crier ensemble. On a l'impression que c'est que les grands, mais effectivement, les petits aussi peuvent jouer ensemble à s'attraper, à se toucher, à se regarder. Quand c'est des bébés qui ne bougent pas, effectivement, ils se regardent, ils rigolent. Et c'est une petite complicité, finalement.
Est-ce que vous voyez le caractère futur des enfants dans les bébés?
Oui, on voit tout de suite le caractère des enfants. On voit ceux qui s'approprient les jouets, qui s'approprient les adultes aussi.
Qui s'approprient des adultes?
Oui, il y a des enfants qui sont un petit peu jaloux, entre guillemets. Ça peut pas être de la jalousie à cet âge-là, bien sûr. Mais voilà, qui ont cette envie d'avoir l'adulte pour eux tout seuls et qui, du coup, vont se fâcher, comme on dit, quand un autre enfant monte sur les genoux ou est dans les bras de l'adulte.
D'accord. Et alors, comment on détourne ça, cette envie?
C'est tout le travail, justement. C'est tout le travail de savoir le faire. Bah, par les mots, par les gestes. Des fois, on a 3, 4, 5 enfants sur les genoux en même temps, dans les bras, pour pouvoir les avoir tous et les satisfaire tous et éviter les cris et les pleurs au maximum.
Mais c'est déjà une petite forme de jalousie, mine de rien.
C'est une petite forme de jalousie, sauf que le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment développé pour qu'on puisse appeler ça de la jalousie. Ils n'ont pas encore ce stade
de compréhension. C'est ça. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'une petite section, je ne sais pas comment on appelle ça, où vous commencez à parler de couleurs, éventuellement de lettres peut-être, ou d'autres choses, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est pour préparer en fait l'entrée dans la maternelle ou...
Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, on voit que les plus grands commencent à s'ennuyer, entre guillemets. Donc, on a toujours envie de leur apporter plus. Et effectivement, parler des lettres, des chiffres, des couleurs, c'est les amener vers la maternelle. Là, on a même un projet. Je ne sais pas si on va réussir à le mettre en place, mais ce serait de faire visiter à nos grands une école maternelle pour une journée. Voilà, pour les préparer, pour qu'ils voient un petit peu en quoi ça consiste et les amener tranquillement vers la rentrée 2025.
À quoi ils vont s'attendre pendant les 20 prochaines années?
Exactement. Ils ont bien le temps d'y penser.
Et ils ont le temps d'y penser. Est-ce que il y a des attitudes ou des jouets genrés? Est-ce que ça existe ou pas? Genrés, c'est-à-dire neutre, on est bien d'accord, ou valable pour tout le monde?
Tous les jouets sont valables pour tout le monde. Que ce soit les poupées, les petites voitures, autant les garçons que les filles sont attirés par tous les jouets. Effectivement, il n'y a pas de genre dans les jouets. Voilà, une voiture rose ou une voiture bleue, peu importe, l'enfant va avoir sa préférence, ça ne change rien.
La dinette, c'est aussi bien pour un garçon que pour une fille.
Tout à fait.
Il faut obliger les garçons pour faire la cuisine.
Non, ils y vont naturellement. Et de toute façon, il y a une sorte de mimétisme qui se fait beaucoup en crèche, comme ils nous voient porter les bébés, préparer à manger, ce genre de choses. Ils vont mimer, donc que ce soit garçon ou fille. Donc ils vont jouer à mettre les bébés dans les transats, dans les lits, à les laver, à leur donner à manger. Ils miment beaucoup ce qu'on fait.
Donc c'est l'exemple qui fonctionne, quoi.
Exactement.
Est-ce que tu te souviens d'un jouet de ton enfance ou de ton premier jouet? Est-ce que tu te souviens?
De mon premier jouet.
Ou d'un jouet quelconque de ton enfance.
Alors, toute petite, non, je ne pense pas. Moi, j'avais des Polly Pocket. Quand j'étais petite, c'était vraiment des figurines miniatures qui rentraient dans des toutes petites maisons. Et c'était vraiment un jouet que j'adorais.
Ouais. Est-ce que tu es un peu attirée aussi par les différents jouets qui sortent à aujourd'hui ?
Pas forcément. Très honnêtement, je regarde pas trop ce qui se fait parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le plastique, on est beaucoup dans le commercial. C'est très, ça a beaucoup figure de personnages de films ou de dessins animés. Pour moi, en tout cas, pour mon travail, c'est pas le genre de jouet que j'ai envie d'acheter pour les enfants que je garde. Voilà, très honnêtement.
C'est plus le bois, le papier, les choses comme ça, les choses basiques, quoi, en fait.
Voilà, on retourne plus sur des choses très naturelles, effectivement, des choses qui vont durer dans le temps et qui sont plus éthiques. Voilà, parce que le plastique, ça a ses limites, ça peut être très fragile. Et puis, comme tout, hein, ça passe de mode. Donc, avoir des jouets neutres dure plus longtemps dans le temps.
Mm-hmm. D'accord. Merci.
Et puis, moi aussi, je vous remercie. Et à travers le jouet, ça nous a donné l'occasion et la possibilité de rendre hommage à votre profession, qui est souvent méconnue.
Nous avons écouté Michel Polnareff et sa poupée qui fait non, 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 non.
De vous à nous, on vous dit presque tout.
Ah bon ?
Ben oui.
Bah ben c'est quoi tout ?
Ben c'est tout.
Oh ben. Oh ben.
Ah ben alors.
Et c'est l'heure du débat mené par Michel sur les jouets de notre enfance.
Chacun de nous entretient un intérêt particulier envers un jouet, peut-être plusieurs jouets, de son enfance. Et vous ? Est-ce que vous avez gardé souvenir d'un jouet de votre enfance qui vous a marqué ?
Ben, moi, oui, pour ma part, j'ai le souvenir, effectivement. J'avais un baigneur et une poupée, parce que nous, à notre époque, on n'avait pas une multiplication de jouets. Et donc, mon baigneur s'appelait Pascal et ma poupée s'appelait Marie-Agnès. Et c'est marrant parce que j'ai... Voilà. Et j'ai aussi la dinette aussi. J'avais une poupée, un baigneur et de la dinette.
Hein. Voilà. Alors, moi, je ne me souviens pas de baigneur ou de poupée parce que j'ai rarement joué avec ce genre de choses. Je ne voyais pas l'intérêt. Mais par contre, c'était les livres. Les premiers livres que j'ai eus, c'était des livres en carton. Les tout premiers, donc j'avais 3-4 ans, hein, mais vraiment, et je les ai gardés très, très, très longtemps. Et puis avec les déménagements, ben, tout est parti.
Michel ?
Eh bien oui, oui, moi, quand j'étais gamin avec mes copains, on jouait aux cow-boys. Et puis, ils avaient tous des pistolets. Et moi, je n'avais pas de pistolet. Donc, j'avais demandé à mes parents qu'ils m'achètent un pistolet. Non, tu n'auras pas de pistolet. Pas d'arme. Oh. Et puis, à Noël, j'avais vu sur le catalogue, il y avait un tir au pigeon. Tir au pigeon, c'était sur un trépied et ça, les pigeons tournaient. Et il y avait une carabine avec des fléchettes. Donc... Oh, j'ai dit, un tir au pigeon, ça me plaît. J'ai eu le tir au pigeon. Et comme ça, j'ai eu la carabine. Je ne me suis jamais servi des pigeons.
Personnellement, non. Moi, je ne me souviens pas. Bon, j'avais une poupée comme tout le monde, avec la poussette et tout. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était dans la cour de récréation, je jouais au foot avec les garçons. Voilà. Il fallait que je bouge, comme toujours. Voilà. Hein?
Sylvie, moi je me rappelle d'un jouet que j'ai adoré. Et voilà, c'était. Ou alors évidemment, comme on dit, hein, les poupées, les dinettes, tous les jouets de notre enfance. Mais moi, c'était un petit frigo. Ah non, mais j'étais obnubilée, certainement, par les frigos. Hein, comme j'ai toujours aimé manger. Et c'était un petit frigo, mais vraiment très bien fait. Il y avait tous les petits aliments à l'intérieur. Et vraiment, j'ai dû jouer avec ça pendant des années. Et j'avais dit merci, Père Noël.
C'était un frigo qui fonctionnait vraiment?
Oui, il fonctionnait. Oui,
ah oui, il faisait du froid?
Oui, oui. Et c'était vraiment super chouette, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu mettais comme aliment dedans, alors?
Je sais plus, hein. Je devais mettre des petites bricoles en cachette. Je devais piquer dans le frigo de maman, tu vois. Et puis, peut-être que je mettais, je sais pas, moi.
Et tu mangeais, après?
Ah, bien sûr.
Ah, bah oui. Hein,
bien sûr, avec mes poupées.
Brigitte, qui est une nouvelle dans l'équipe.
Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, effectivement, j'ai des souvenirs aussi de poupées, mais j'étais plus coiffeuse, en fait, parce que toutes les poupées qui avaient les cheveux longs, je leur coupais les cheveux, donc elles avaient plus de franges. Et alors, il y a Sophie, elle est boule à Z. Et ensuite, après, j'avais une poupée qui parlait, donc elle s'appelait Françoise. Elle avait les cheveux longs aussi, magnifiques. Bon, ils ont été finalement courts. Et elle parlait. Alors, elle faisait « T'aimes le chocolat, toi ? Oh, là, mais je tombe !» Donc c'était fantastique, elle marchait aussi, donc bon, j'ai plus de 60 ans, donc effectivement c'était un jouet super énorme, le Père Noël avait été extrêmement gentil, quoi. Et puis après, moi aussi j'ai eu un baigneur, Pascal, bon, qui bougeait pas trop, qui était en plastique, dont les cheveux, bah, il n'y avait rien à faire. Enfin voilà, quoi.
Mais est-ce que tu faisais des mises en plis à tes poupées?
Non,
parce qu'à l'époque, on appelait ça les mises en plis.
Oui,
hein.
Non, moi je coupais tout direct, comme ça j'étais tranquille. C'était... Ils avaient les cheveux à boule à Z, les cheveux en hérisson, c'était magnifique. Voilà.
Paul. Alors Paul, elle nous a dit ça en off, mais elle va nous le dire tout de suite au micro.
Bon, alors moi j'ai plein de souvenirs. Enfin, j'ai... Ah oui, c'est vrai. J'ai plein de souvenirs. J'en ai trois. Le premier, c'est mon baigneur que j'ai eu. J'étais toute gamine. J'avais, je sais pas quel âge. J'étais vraiment toute petite, que j'ai gardé jusqu'à ma première fille. Il s'appelait Pierre. C'était un grand baigneur et il devait bien mesurer au moins 60 cm. Il était magnifique. Il était en celluloïde, bien entendu. C'était l'époque. Et je me rappelle quand j'étais toute petite, je devais avoir 5-6 ans, mon grand-père, que je voyais très rarement, une année, venu pour Noël, il m'avait fait toute la chambre à coucher de ma poupée. Je devais avoir une poupée, puisque c'était pour une poupée. Alors, il y avait l'armoire, le lit, la table de nuit, et puis des petits sièges, je crois. C'était super, tout en bois. Oui, mais il était très, très manuel. Donc, c'était vraiment un souvenir extraordinaire. Mais ça, je n'ai pas le souvenir de l'avoir gardé longtemps. Peut-être les déménagements de mes parents, un truc comme ça.
Mais moi, je me souviens, tu as raison. À l'époque, on avait des jouets en bois, bien sûr. Hein, et j'ai eu aussi une chambre de poupée avec une armoire, avec une vitre, enfin un miroir, un berceau avec des roues, d'accord. Et puis tout un petit nécessaire de toilette. Avec une petite table de toilette. Et j'ai toujours transformé, moi, les objets. Je leur donnais autre chose. Ce qui fait que le berceau, avec les roues, là, ça nous servait de... Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? De char.
Oh. Ah ben oui.
Donc, moi, j'étais dans le truc et les garçons tiraient. Voilà.
Oh, moi, c'était une poupée en chiffon que ma mère m'avait fabriquée. Elle était très habile de ses doigts. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la famille. Alors, elle s'était débrouillée avec ce qu'elle avait. Eh bien, personne... est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ?
Juste à l'époque, c'était poupée de cire, poupée de sang.
Oui, moi, j'ai une petite anecdote aussi. C'est que moi, j'ai le souvenir que... Parce que j'ai une famille nombreuse et mon papa nous fabriquait des jouets. Et j'ai le souvenir d'un tableau, mais d'un tableau d'école. On était trois filles, on suivait, on avait 2 ans, les trois filles en 2 ans. Et on a eu chacune, il y avait 3 tableaux, donc c'est des grands tableaux noirs, avec entourés en verre sur un trépied. Et ils nous avaient fabriqué aussi des tables à repasser. Donc voilà, moi c'est un souvenir de, voilà, c'était l'époque où on avait de beaux jouets. C'était vraiment, je crois que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux que mon papa avait fabriqués.
On aimait bien, c'est certain, les tableaux avec les craies et tout ça, qu'on jouait à la maîtresse. Hein. Alors ça, voilà. Et on voulait être maîtresse, hein. On voulait être maîtresse d'école. Hein. Ça, je m'en souviens maintenant. Puis les frères et sœurs, fallait qu'ils marchent droit quand on les interrogeait. Hein.
Oui, je suis comme toi. Moi, je faisais l'école, je les alignais devant moi, parce que j'en ai eu 5 derrière moi. Et donc, je leur faisais l'école, je leur apprenais à lire, à écrire. Et puis, alors, bien entendu, des petits, ça ne tient pas en place. Donc, j'étais un petit peu, comment dire, autoritaire.
Ça,
voilà.
Ça, c'est étonnant.
Oui, hein, c'est étonnant, voilà. Et ils s'en souviennent encore. Hein.
Tu étais l'aîné des enfants, comme moi alors. Moi aussi j'étais l'aîné, donc il fallait que tout le monde marche droit à baguette.
Oui, moi aussi.
Et ils t'ont pas fait un procès depuis ?
Bon, il est temps maintenant de passer la parole à Marie-Claude pour sa minute culturelle.
Ah, c'est tout comme moi. Eh bien, là, on va parler de jouets et de culture. Et c'est un très vaste sujet, mais je me suis arrêtée sur 2 aspects simplement. Tout d'abord, au cinéma. On a un film en tête qui revient, qui est connu bien sûr, qui s'appelle Le Jouet et qui nous a marqué les esprits avec Pierre Richard et Michel Bouquet en 1976, hein, donc presque 50 ans. Sauf que là, Le Jouet, c'est un homme aux mains d'un petit garçon qui lui fait faire beaucoup de choses. En musique, alors on trouve le ballet de Tchaïkovski, Casse-noisette, qui date de la fin du 19e siècle. C'est pas jeune, hein ? Un soir de Noël, Clara, une petite fille, reçoit un jouet, une espèce de pantin désarticulé. C'est un casse-noisette. La nuit, en rêve, avec le casse-noisette transformé en prince, elle se retrouve dans un monde où les jouets prennent vie sur une chorégraphie de Rudolf Nureyev. Et le morceau le plus connu, c'est la marche. Voilà. Et plus de 100 ans après, eh bien, un musicien va écrire et mettre en musique un conte musical pour enfants. Et ceux qui le sont restés, bien sûr, c'est le Soldat Rose. Et le musicien, c'est Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgot qui a fait le livret. Alors, il s'agit d'abord au tout début d'un album de chansons qui sort fin 2006. Des vedettes y participent. Cabrel, Souchon, Vanessa Paradis, Benabar, etc. Et deux concerts au Grand Rex en 2006 apportent un succès foudroyant à ce conte musical. Et puis, il y a une comédie musicale qui voit le jour en 2008, avec une réédition en 2013 et une reprise en 2023. En fait, ce conte musical a 15 ans. Et c'est toujours d'actualité. Hein. L'histoire. Un petit garçon, Joseph, lassé du monde des adultes, décide de s'enfermer dans un grand magasin de jouets. À la fermeture, les lumières s'éteignent et les jouets s'animent. Et là, ils découvrent leur vie, leur espoir et leur peur. Il y a un robot, une girafe, une poupée aux yeux rouges, et parmi eux se trouve un jouet particulier, un soldat rose, mais qui ne trouve pas preneur. Alors, ce conte musical a donné 3 albums, 2006, 2008 et 2017, avec Le Soldat Rose et la Fabrique des Jouets. Le spectacle, il faut savoir que le spectacle est en tournée en 2025 dans toutes les régions de France. Allez-y avec vos petits-enfants, parce que la magie opère encore, les enfants apprennent par cœur toutes les chansons. Eh bien, on va écouter la musique de Cabrel, Gardien de nuit.
Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de zoo, c'est peinard. C'est pas souvent que les pingouins se barrent. Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de but, c'est trop fastoche. Suffit d'enlever les mains de ses poches. Mais gardien de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance.
Alors maintenant, MC,
oui,
présente. Tu vas nous présenter ta chronique sur le Noël solidaire, suivie de Michèle qui, elle, va nous parler de la sécurité dans les jouets.
Eh bien oui, entre fêtes de Noël et anniversaire,
les enfants se retrouvent avec des quantités de jouets inutilisés. Le don de jouets et collecte dans des associations caritatives est une solution à ce dilemme tout en aidant les familles dans le besoin. Et pour moi, c'est capital. Donc, il y a plein d'organisations pour donner. Des plateformes de dons, déjà, entre particuliers. Contre frais de port, on trouve des jouets gratuits. Des dizaines de colis sont postés chaque jour. Se débarrasser des jouets qui prennent la poussière, dont vous n'avez plus l'utilité, en bon état bien sûr, et en évitant les déchetteries, on fait un geste pour la planète, tout en faisant une bonne action. On donne aussi beaucoup au Resto du Cœur, au Secours Populaire, la Croix-Rouge, qui eux redistribuent aux plus démunis. Le don de jouets peut aussi être utile aux hôpitaux, aux crèches, aux écoles, aux centres de loisirs. Ou encore, on peut acquérir à faible prix grâce aux vide-greniers, aux bourses aux jouets. Ce qui donne une seconde vie à des jouets ayant déjà servi. Les jouets en moins bon état, l'association Rejouer trie, nettoie, récolte des jouets d'occasion pour les revendre à bas prix. Est-ce que vous savez combien de tonnes de jouets sont jetées par an ? Non ? 100 000 tonnes. 100 000 tonnes. Une
En France.
C'est une surconsommation mondiale d'urgence. Hein. C'est une urgence climatique aussi. Hein. Et seulement 18 700 tonnes de jouets sont récoltées hein, l'an dernier et remis en circulation. Seulement par les 100 000 tonnes jetées. Hein. Personnellement, chaque année, je participe à l'opération Boîte de Noël solidaire. Un peu partout en France, à l'initiative de citoyens, des collectes sont organisées au profit des sans-abri et des démunis. Leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Alors, je prends rendez-vous avec mes petits-enfants. Je les encourage à choisir un ou deux jouets qu'ils sont prêts à donner. Dans des boîtes à chaussures, on met des jouets, vêtements chauds, produits de toilette, friandises, sans oublier une petite carte remplie de petits mots doux. On inscrit dessus l'âge, puis garçon, fille ou bébé. Là, personnellement, j'en ai fait trois, une pour une fille, pour un garçon et pour un bébé. Vous pouvez aussi donner à des adultes, hein, même à des toutous, hein. J'ai vu. Hein. Les points de collecte, ce sont souvent les mairies. Hein. Avec cette action, on fait le bonheur d'enfants dans le besoin et on réchauffe les cœurs. Donc, merci d'avance pour votre générosité. Pardon, explique. Donc, tu voulais ajouter quelque chose ?
Je voulais te remercier d'avoir abordé ce sujet, effectivement.
Bah parce oui, que bah, ça fait plusieurs années et ça doit faire une dizaine d'années que ça existe, ça.
D'ailleurs, sur Évreux, la mairie d'Évreux est un point de
collecte. Et les mairies d'annexes aussi. Michel, maintenant, va nous parler de la sécurité des jouets.
Oui, alors, il faut savoir d'abord que 7 jouets sur 10 vendus en France viennent d'Asie. Alors donc, chaque année, vous avez des milliards de jouets qui circulent sur les océans. À la douane, il y a des jeux qui sont saisis parce que jugés trop dangereux. Dans les rayons des magasins, il y a des agents de la répression des fraudes aussi qui circulent et qui viennent vérifier que le marquage et les recommandations d'utilisation sont bien là et bien traduites en français, forcément. Alors, il y a des exigences importantes, celles qui concernent notamment la vitesse de propagation de l'incendie. Hein, il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes par seconde. Au-delà, c'est considéré comme dangereux. On teste aussi les trottinettes. Elles sont soumises au crash test. Et donc, si ça ne marche pas, allez, ça va au rancard. La plupart des jouets sans marque aussi sont considérés comme dangereux. Alors sur les plateformes notamment, Cdiscount, Amazon, vous avez des jouets qu'il ne faut pas acheter. Hein. Certes, ils ne sont pas chers, mais... Alors des fois, c'est le contraire. C'est le marquage qui est abusif. On vous dit que c'est autorisé à 3 ans, alors qu'on se rend compte que ça ne l'est pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition pour quand on se rend compte de ce qui nous est tombé entre les mains, on peut toujours passer par le site gouvernemental. La consommation.
Je crois, tu l'as peut-être dit, mais que il faut, surtout en Europe, il faut s'assurer que les jouets aient le logo CE. Parce que ça, c'est une oui. garantie, c'est une obligation oui. de respect de certaines règles, dont celle que tu viens de dire. C'est important, oui. CE. Oui, oui. Alors, c'est peut-être un tout petit peu plus cher, je le reconnais. Mais au moins, l'enfant, lui, il est un peu plus en sécurité.
Ouais, c'est certain.
Il y a peut-être d'autres choses aussi. Je crois qu'ils vérifient aussi les yeux des oui. nounours, des choses comme ça, parce que ça peut s'enlever et puis il les avale.
Et les hochets aussi.
Ah, les hochets.
Les hochets, par exemple, j'ai entendu parler de ça. Il y avait un hochet qui avait été examiné. Il y avait des grelots. Et c'est dans les grelots, il y avait une petite pièce que l'enfant aurait pu avaler. Et donc, évidemment, ça a été retiré de la vente.
C'est plus un hocher.
Comment ?
Je dis c'est plus un hocher, alors s'il n'y a pas le
grelot. Ah bah non, mais
faisait
bien
tout.
Sûr.
Oui, mais...
Et ça te va encore, malgré tout, les hochers ?
Oui, mais non, tous n'ont pas, dans les grelots, tous n'ont pas cette petite pièce.
Ah oui, d'accord.
Comme les piles-boutons, par exemple. Les piles-boutons dans les jouets, l'enfant... croit que c'est pour jouer. Et tous les ans, on constate des gens qui vont aux urgences parce que leur enfant... Alors, on ne sait pas s'ils l'ont avalé ou avalé, mais bon, il faut être très vigilant avec ça. Je vais céder la parole à mon homologue masculin.
Alors, eh bien, l'homologue... va vous aussi vous parler du jouet sans surprise. Et ça y est, c'est bientôt Noël. Et de quoi parle-t-on à Noël ? Eh bien des jouets. En France, si vous avez remarqué, dès qu'on parle d'un sujet ou d'un secteur, oui, aïe aïe aïe, ça va mal. Interrogeons le jouet alors. Eh bien, l'on vous dit qu'il est en repli. Une baisse de 5% en valeur en 2023 par rapport à 2022. Alors comptez sur moi, c'est ma cause écho et je vais tout vous dire. C'est pour qui les jouets ? Eh bien pour les enfants bien sûr. Qui dit enfant dit natalité. Une baisse de 6% en un an et pire encore, 830 000 bébés en 2010, 680 000 en 2023. Moins 20% en 13 ans, ça compte. Tiens au fait, le nombre de classes s'abaisse aussi ? Mais ça, c'est un autre débat. Autre bémol et sujet à la mode, la seconde main. Avant, je disais l'occasion, mais bon, passons. Cela explique beaucoup de choses. On a eu aussi la chute du géant mondial du jouet, Toys R Us. En France, Jouet Club a absorbé la grande récré. Et puis aussi, baisse des ventes en hypermarché. Qui dit baisse des enfants, dit baisse aussi des parents et des grands-parents. Et donc baisse des acheteurs. Et s'il n'y a pas pour tout le monde une baisse du pouvoir d'achat, il y a quand même pour tout le monde une baisse de la fièvre acheteuse sur le jouet. On devient de plus en plus responsable. On n'en est plus à celui qui achètera le plus gros camion de pompiers ou le train avec 24 mètres de rail alors que les logements sont de plus en plus petits. Et les nouveaux grands-parents achètent aussi maintenant sur Internet. Et on a perdu la joie, oui, elle existait, d'aller choisir le jouet en magasin. Vive Amazon et compagnie aujourd'hui. Alors, vive le jouet, vive le jouet, vive le jouet de Noël.
Allez, on continue pour s'amuser. Tous les gentils reporters, je vous propose un petit quiz. Alors, écoutez-moi bien. C'est une très, très grande dame. Elle a plus de 60 ans.
Sarah Bernard.
Sophie la girafe.
Ah bah dis donc, Michel.
Elle a triché. Moi j'ai pensé à Sophie la girafe tout à l'heure.
Oui. Et ben oui, c'est bien Sophie la girafe. C'est vrai qu'elle est en tête des ventes de jouets du premier âge en France. C'est une icône intergénérationnelle. Elle est tendre, ludique et stimulante. Et quand une jeune maman ou un jeune papa se souvient d'en avoir eu une, eh ben ils l'achètent pour leur enfant. Juste pour vous dire, elle a été créée par la société Delacoste en 1961. Bon, maintenant, attention Michel, je vais cacher mes fiches. Le jouet le plus connu au monde.
C'est pas le nounours.
C'est lequel?
Le Lego.
Non, c'est Teddy Bear.
Le mécano.
Non.
La poupée Barbie.
Non plus.
Les osselets.
Oh non. Oh, t'avais... Une petite réponse quand même, Florence.
La poupée.
Alors, je vous le dis, c'est le Ludo. Et le Ludo, c'est quoi?
Ah, je ne connais pas.
Eh bien, c'est le jeu des petits chevaux.
Ah oui.
Voilà.
En quoi j'avais la poupée Barbie?
Alors, c'est juste derrière le yo-yo et les poupées Barbie.
Ah, d'accord. Parce que je n'avais pas la relation entre la poupée Barbie et les petits chevaux.
Voilà.
Donc, maintenant, tu as trouvé. Ludo et les petits chevaux.
Non, pas du tout. Bon, ben voilà, maintenant, vous savez que c'était pas... Hein. Donc voilà, le Ludo, le yo-yo et les poupées Barbie. Donc pour les plus connus au monde. Alors, le plus célèbre maintenant.
Le plus célèbre?
Ouais. Le jouet le plus célèbre.
Ben, c'est le fameux.
Pas du tout. Alors. Pas du tout.
Non, toujours pas, non.
Allez.
Lego,
non, on
le
a parlé
Lego
déjà de la Barbie.
Le Lego,
eh ben, c'est le Rubik's Cube.
Ah bon?
Ouais. C'est le Rubik's Cube.
C'est pas un jeu, c'est un casse-tête.
Donc, bah si, mais c'est quand même dans les jouets, tu vois.
Le machin qu'on tourne dans tous les sens.
Voilà, là. Pour arriver à faire toutes les couleurs. Je ne sais pas si quelqu'un y arrivait dans l'assemblée.
Oui, il y a très longtemps.
Hein,
oui,
a... Voilà.
Il y a vraiment très longtemps. Je suis incapable de le refaire.
Parce que les oui, il y a toujours un homme là, ça ressort.
Ah bon, ça ressort?
Oui.
D'accord.
Oui, ça ressort. Mon petit-fils y joue, enfin bon. Alors maintenant... Les jeux les plus à la mode actuellement.
Les jouets informatiques, là, les jouets vidéo.
En dehors
vidéo,
de l'informatique.
Vidéo,
en dehors de l'informatique.
Pokémon? Non.
Allez, on cherche un peu.
C'est un jouet
les
en...
Les Playmobil? Oui, voilà, j'allais dire, chercher un Playmobil.
Alors, les plus à la mode, oui, bien sûr, les Playmobil. Mais ce sont les jeux de construction.
Oui, voilà, les Lego.
Nommé le jouet du siècle en 2000, le Lego. Ouais. Les caplaques, les jeux de société, Géomag, etc. Voilà, allez, on va terminer avec le plus primé en 2024.
Oh, on n'est pas au courant.
Oh, pas du tout.
Ah.
On ne nous l'a pas dit.
Non, on ne nous l'a pas dit, non.
Bon, allez, je vous le dis.
Presque tout, mais on ne nous a pas dit ça.
Alors, le plus primé en 2024 dans la catégorie radio commandée, c'est un petit lézard.
Pardon ?
De chez GECKO. Ouais.
Radio,
eh ben voilà.
Radio commandé.
Oui.
C'est-à-dire
oui,
qu'en
oui
fait, tu le fais bouger avec une télécommande.
Exactement, Marie-Claude.
Ah, d'accord.
Tu sais où on peut avoir ça parce que...
Eh ben, écoute, tu demandes au Père Noël et tu verras, tu l'auras. Il a encore temps de lui écrire.
Bon, ben, écoute, merci, Sylvie, parce que c'était très intéressant. On a appris
ça vous a plu
choses.
Eh ben, c'est parfait.
Ouais, on a appris plein de choses.
Alors, chers auditeurs, il est temps de rendre l'antenne. Merci à nos invités Maëlan et Madame Fallet. À Paul et Brigitte pour leur participation, en souhaitant que Brigitte nous rejoigne bientôt. Merci à toute l'équipe, à Vincent, à l'encadrement et à la technique. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook de Vous à Nous, on vous dit presque que tout. Vous pouvez nous donner vos avis, voilà. Et puis, et juste avant de vous quitter, vraiment là, il me tient à cœur de vous en parler. Savez-vous ce que demandent maintenant les enfants dans leur lettre au Père Noël, en plus de leurs cadeaux ? Cher Père Noël, avec tes rênes, tu peux nous apporter la paix dans le monde ? Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. Donc on vous dit à très 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 vite.
Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.
Roi des forêts que j'aime tant.